Les informations en direct de Radio Zinzine ainsi que sur votre web radio préférée, BAM Radio, en direct de Marseille. Et donc ce soir, on va parler de Marseille, on va parler notamment en première partie de ces informations du mouvement social, de la manifestation de jeudi ainsi que des blocages avec trois interviews. On parlera en deuxième partie de ces informations de Mayotte, puisqu'on en parle pas mal en ce moment dans les médias et surtout qu'il se passe plein de choses là-bas. C'est une interview que nous avons réalisée avec Tiffaine de Radio Galère, avec la participation de Guigui. Et on commence tout de suite avec la météo. Et bah, il continue à faire beau et c'est tant mieux. Et c'est normal puisque c'est le printemps, avec des températures entre 15 et 22 degrés pour les jours prochains. Un peu de pluie à prévoir dans les terres dans la nuit de dimanche à lundi ainsi que lundi matin. L'agenda de la semaine, comme d'habitude, il y a tout un tas de choses à faire à Marseille et à chaque fois je vous le dis, ou alors peut-être que des fois j'oublie, mais en tout cas, vous pouvez aller sur le site de 1000 Babord qui vous permet d'avoir plein de dates intéressantes sur la ville de Marseille et de retrouver les principaux rendez-vous qu'on annonce sur les ondes de Zinzine. Donc aujourd'hui à Marseille, bah, vous avez loupé la manifestation organisée par le collectif Migrant 13 suite aux accords entre l'Union européenne et la Turquie qui seront massivement renvoyés vers la Turquie tous les migrants qui ont gagné la Grèce par la mer Égée dans les pires conditions et au péril de leur vie et qui, suite à une enquête bâclée la plupart du temps, se voient arbitrairement refuser la protection liée au droit d'asile, en sachant qu'en plus ils sont renvoyés vers la Turquie, pays qui, on peut le dire, n'est pas l'un des plus sûrs. Ensuite, dimanche, donc demain à 15h à la Plaine, ainsi que tous les mardis à 18h au kiosque des Réformés, il y a l'Assemblée de 13 en lutte pour suivre le mouvement social et les actions qui sont prévues. Lundi à 12h à la Cantine du Midi, au 36 rue Bernard, c'est à la Belle de Mai dans le 3e arrondissement de Marseille, et c'est comme chaque lundi du troisième mois, le journal des femmes du quartier populaire de la Castellane vous invite pour la présentation de la baguette magique. C'est le journal qu'elles réalisent ensemble. Le repas, en plus de servir au groupe de rédaction pour soutenir ses activités, c'est-à-dire des sorties, achat de matériel, etc., est une occasion pour ouvrir une fenêtre sur la Castellane au centre de ville de Marseille, et on en a bien besoin de ce lien entre le centre-ville et les quartiers nord. Mardi 24 mai à 18h30, dans le local d'attaque, il y a une soirée organisée autour de la situation de la centrale de biomasse Uniper, c'est celle ex-Eon de Gardanne, donc la plus grande de France, dont les tests sont en cours et la mise en marche prévue au deuxième semestre 2016. Avec plusieurs questions qui seront abordées. Une centrale biomasse, c'est quoi et comment ça fonctionne? Pourquoi la centrale biomasse de Gardanne est-elle une aberration à la fois en matière d'environnement, d'utilisation des ressources, d'utilisation d'argent public, etc.? Du point de vue démocratique, la population a-t-elle été associée au processus de décision et a-t-elle été consultée sur les enjeux? On imagine la réponse. Quelles sont les forces et les positions en présence, élus, partis, syndicats, associations? Quels sont les emplois en jeu? Y a-t-il une alternative? D'ailleurs, c'est vraiment intéressant d'aborder cette question des emplois, puisqu'il y a eu une manifestation il y a deux semaines de plusieurs salariés de cette société E.ON de Gardanne qui sont venus devant le parvis du World Trade Center de Marseille. Et oui, nous aussi à Marseille, on a un World Trade Center pour défendre leurs emplois, puisqu'il y a environ 160 emplois qui devraient disparaître suite à cette reconversion de la centrale de Gardanne. Et donc on voit bien comment c'est compliqué entre, d'un côté, des gens qui perdent leur emploi sur Gardanne où il y a vraiment aussi beaucoup de chômage, et de l'autre côté, cette centrale qui n'est vraiment pas désirable en termes de pollution et en termes de gigantisme de projet social, notamment puisque tout un tas de forêts vont être rasées dans les Cévennes, etc., en région PACA. On en a parlé de nombreuses fois sur les ondes de Zinzine et on continuera à le faire. toujours le mardi 24. Donc si vous n'allez pas à cette réunion, à 19h à la librairie Transit, c'est au 45 boulevard de la Libération à Marseille, c'est la présentation du livre « Délinquance, police, justice, enquête à Marseille et en région PACA ». C'est une rencontre avec son auteur qui est sociologue et qui s'appelle Laurent Municelli, ainsi que sa co-auteure Émilie Raquet. Et il nous livre un ensemble de travaux qui souvent dynamitent les idées reçues sur Marseille, dite capitale du crime, ainsi que sa région. Et il est nécessaire justement de dynamiter ces stéréotypes autour de Marseille, puisqu'ils arrivent en permanence dans les médias, comme une nouvelle fois dans la Provence, qui nous parle de la guerre des Blacks et des Gitans aujourd'hui. C'est-à-dire, les Blacks et les Gitans, c'est deux clans qui se partagent le trafic de drogue dans le 13e arrondissement et qui accumule vendetta sur vendetta, ce qui représente énormément de meurtres, hein, puisqu'entre 2006 et 2013, ça représente une dizaine de morts. Et il faut savoir que cette guerre aussi continue jusque dans la prison des Baumettes, où il y a pas mal de gens qui sont emprisonnés de ces deux clans-là. Mais en tout cas, la Provence traite ce sujet de manière assez superficielle, ce qui est dommage en fait, puisque là, c'est les faits et c'est intéressant d'en parler. Et c'est des faits qui sont certes tragiques, mais il faut essayer de les comprendre socialement, ce qu'il y a derrière, et un peu casser ce discours de la délinquance qu'on entend en permanence et essayer de saisir les tenants et les aboutissants. Ensuite, au niveau des dates, on finit cet agenda avec le samedi 28 mai à Briançon, cette fois à 10h. Rendez-vous devant la gare, une manifestation pour l'arrêt des travaux sur les lignes THT, c'est-à-dire très haute tension, pardon, appelé par un collectif étudiant des Hautes-Alpes contre les lignes THT, ainsi que tout un tas d'autres collectifs. Retour en direct sur Radio Zinzine ainsi que sur BAM Radio. Et je vais vous donner quelques informations sur Marseille avant de parler du mouvement social. Alors demain, le tunnel du Prado, donc l'autoroute qui passe sous le Prado, Prado Sud, sera bloqué, ainsi qu'assisteront. Alors s'ils sont bloqués, ce n'est pas lié aux manifestations qui sont prévues ainsi qu'aux actions de blocage, c'est simplement parce que la société des autoroutes françaises a décidé de créer des fêtes convivial sur les autoroutes, rien que ça. Et donc la société marseillaise du tunnel du Prado Carénage, la SMTPC, a décidé de suivre cette opération. Et donc vous pourrez aller passer un dimanche dans un tube, comme nous le dit la Provence, avec tout un tas d'activités, une journée de fête un peu particulière, baptisée « Le tunnel est à vous », avec Émilie Chahy, responsable du département commercial de cette société, qui nous dit « Outre la convivialité qu'apportera l'opération, cela permettra aussi de mieux le faire connaître ». Alors bon, je ne vois pas l'intérêt de connaître l'intérieur d'un tunnel où passe l'autoroute, mais bon, passons, il y aura tout un tas d'activités comme loto, atelier graffiti, château gonflable, je crois, voilà, venez vous amuser dans le tunnel du Prado. Et donc, comme je disais, assisteront aussi, il y a des stands qui vont être montés sur l'autoroute avec tout un tas d'activités. Donc, plutôt que d'aller passer un dimanche à la campagne, de vous aérer, de faire des promenades dans la forêt, allez battre le bitume de l'autoroute. Et toujours en parlant d'autoroute sur Marseille, il y a une mobilisation qui continue. Alors là, j'ai pas de date précise d'action ni de rendez-vous à vous donner, mais on va suivre cette histoire sur Radio Zinzine, parce qu'il y a pas mal de collectifs de locataires, notamment dans les quartiers nord, donc Picon, Busserine, Saint-Barthélemy 3, Fontvert et la Benosse, donc c'est cité HLM du 14e arrondissement du grand territoire Saint-Barthélemy, qui lutte contre le projet d'autoroute A57 qui est nommé L2, la L2 de Marseille, qui est un projet d'autoroute urbaine en construction. Et pour 2017, elle devrait relier l'échangeur des Arnavaux sur l'autoroute nord, à l'autoroute nord, donc à la 7, sur une longueur de 9,7 km, réalisant un contournement de Marseille entièrement autoroutier, sans péage, en tout cas c'est ce qu'on nous dit pour l'instant, parce que ça on voit que des fois ça change, accessible au poids lourd. Et en fait c'est le projet qui date quand même de 1933, de créer une grande rocade autour de Marseille pour désengorger les grandes voies intérieures, notamment comme la rocade du Jarret. Pourquoi pas désengorger la rocade du Jarret, hein, ça on le comprend, mais on se pose jamais la question de pourquoi elles sont engorgées, notamment le fait qu'il y a énormément de voitures. Mais bon, ça c'est des questions sociales qui sont peut-être un peu trop profondes et d'ailleurs qu'on ne va absolument jamais creuser. Par rapport au mouvement social qui a eu, j'en parle déjà au passé, c'est terrible. Non, par rapport au mouvement social qui y a en ce moment et qui continue, il y a une manifestation aussi à Marseille ce jeudi. Alors, il y en a une mardi, il y en a une jeudi. On pensait en arrivant, en tout cas, moi, je pensais en arrivant qu'il y aurait moins de gens. Et effectivement, au début, on était quelques milliers de personnes regroupées sur le Vieux-Port. Ça a eu du mal à décoller, mais en fait, au fur et à mesure, il y a tout un tas de gens qui sont venus, qui sont agrégés. Et la manifestation a eu lieu. On a pris Courlioto et cette fois, on est plus allé vers préfecture, là où la manifestation s'est arrêtée. Et donc, au cours de cette manifestation, avec Tiffen, notre comparse de Radio Galère, qui fait les informations à 12h30 sur Radio Galère, nous sommes allés rencontrer des syndicalistes qui étaient présents, notamment dans le cortège de Sud. Donc on va écouter quelques interviews, mais tout d'abord on va écouter un premier interview d'une personne qui était sur le blocage des bus de l'ERTM, puisque les Tiffen de Radio Galère, encore une fois, s'est bien motivée, puisqu'elle s'est levée tôt et elle est allée voir ces gens qui bloquaient les bus et pourquoi ils les bloquaient. On écoute cette petite interview en introduction.
Martoranin Jean-Jacques, chauffeur de bus.
On est devant le dépôt Saint-Pierre, RTM Saint-Pierre. Il y a 4 dépôts ici à Marseille.
Tout à fait, 4 dépôts. Vous avez La Rose, Capelettre, Arènes et Saint-Pierre. Par rapport à la loi El Khomri, on bloque un peu nos dépôts. Par rapport à cette loi qui est complètement immorale et qui nous défavorise complètement sur le code du travail.
Hors micro, tout à l'heure, vous disiez que c'était compliqué de se mobiliser depuis 2007, parce que justement, il y avait tout un tas de dispositifs qui compliquaient le fait de se mettre en grève.
Ben, c'est grâce à la loi Sarkozy, on est obligé de remplir un papier pour se déclarer en grève, et on essaye de mobiliser le plus de gars pour les faire toucher du doigt ce qui va nous arriver avec le nouvel code du travail. Entre les heures supplémentaires qui vont être rognées et tout ce qui va en découler de ce problème. Mais de toute façon, maintenant, c'est tellement bloqué par rapport au système de grève. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, parce qu'on nous envoie les huissiers régulièrement si on veut faire des blocages. C'est beaucoup plus difficile de se mettre en grève maintenant, à l'heure actuelle. Ouais. Voilà. Les premières journées ont été très fortes. Là, bon, ça commence un peu à se percevoir sur le long. Après, il y a des gens qui sont en vacances, il y en a qui reviennent, il y en a qui se mettent en grève une fois, il y en a qui se mettent une autre fois. C'est un peu, c'est toujours à peu près pareil, le pourcentage, mais c'est jamais les mêmes. Voilà. 31 mars, c'était le plus fort, ça a été. On était à peu près 80% de grévistes.
Et là, ça circulait plus du tout, il n'y avait plus de circulation du tout de transport dans Marseille. Quoi.
Ouais, tout à fait. Après, il n'y a pas assez de personnel, ils ne peuvent pas mettre les bus en place par rapport à un problème de sécurité. Voilà. tout simplement.
Et là, en termes de stratégie pour la suite du mouvement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des soutiens sur les différents piquets
Mais là, il faut voir avec faire une assemblée générale et on verra avec les autres confédérations, hein, avec la Vera ou avec la Poste ou avec SNCF, on verra ce qui va se passer.
La Vera, c'est quoi pour les auditeurs?
Le pôle pétrolier qu'il y a à Vitrolles.
Et qui ce matin est bloqué.
Qui ce matin est bloqué, tout à fait.
Et du coup, il y a une partie de...
partie des employés RTM qui sont partis là-bas pour se retenir, les gars.
Ça part en reconductible ici ou ça va être grève carrée
Non, pour l'instant, c'est des grèves carrées, bien structurées. Après, on ne sait pas si ça va être reconductible ou pas.
Du coup, la prochaine journée, c'est prévu pour quoi?
Pour l'instant, je ne sais pas encore. Voilà. Je n'ai pas de... Voilà. Okay. Après, je ne sais pas. Il faut demander.
Vous voulez rajouter quelque chose ou pas?
On lâche rien.
Voilà, c'était une personne sur le piquet de grève de la RTM, donc cette société de transport marseillais, à savoir et à noter qu'il y avait quand même 70% de grévistes ce jour-là et que la CGT ainsi que Sud annonce multiplication de blocages la semaine prochaine. Hein, c'est sorti dans la Marseillaise ainsi que dans la Provence, avec une AG interprofessionnelle aussi au centre d'embauche des dockers lundi soir, appelée par la CGT. Donc la CGT a décidé de bloquer ses entreprises pétrochimiques dans un mouvement de grève continue, donc depuis jeudi, avec une grève tournante, hein, puisque ça passe de site en site sur ces différentes raffineries, en sachant que bien sûr c'est suivi sur l'ensemble du territoire. Par rapport à Marseille, il y a aussi les cheminots qui se mobilisent et qui appellent à des grèves. Alors en fonction des syndicats, c'est grève reconductible, notamment pour Sud Solidaire jusqu'au 11 juillet, qui est le lendemain de l'Euro de foot. L'Euro de foot se finit le 10 juillet. Et donc, ce syndicat appelle à une grève illimitée jusqu'au 11 juillet. Et on va écouter une interview d'une personne du cortège qui était présente dans le cortège de Sud ce jeudi à la manifestation de Marseille.
Moi donc je bosse cheminot Gare Saint-Charles, syndicat Sudrail. Nous, Sudrail et l'Union syndicale solidaire depuis un certain temps, on pense que pour gagner le retrait de la loi travail, ça va être avec un véritable rapport de force. Et ce rapport de force, il passe effectivement par un blocage de l'économie, c'est-à-dire grosso modo par des grèves reconductibles dans plusieurs secteurs qui se renforcent les uns les autres et qui aboutissent donc à ce blocage de l'économie. Aujourd'hui, on voit bien qu'en face, au niveau gouvernemental et patronal, il ne peut pas y avoir de négociation. Donc on ne peut pas peser sur les négociations puisqu'il n'y a pas de négociation. La seule chose qui aura négocié, c'est un recul social. Donc effectivement, ça pose la question du rapport de force dans les différents secteurs, que ce soit le transport routier, le ferroviaire, la chimie, l'éducation nationale, la poste, etc. Et aussi dans pas mal d'entreprises du privé, pour arriver à un blocage de l'économie, donc qui passe par une grève reconductible. Et qui puisse y compris s'appuyer sur la mobilisation lycéenne, étudiante, citoyenne, etc. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Le problème, mais c'est pas un scoop, c'est qu'on n'est effectivement pas dans une situation d'unité syndicale pour appeler à une convergence des luttes et à une grève reconductible, interprofessionnelle, le plus unitaire possible. Il y a aujourd'hui, moi je serais tenté de dire, plus une unité syndicale de façade, voilà, bon, qui s'affiche, il y a des grosses manifs, on occupe la rue, mais il n'y a pas de dynamique unitaire dans les boîtes qui va permettre d'arriver à cette situation de blocage, donc de rapport de force. Donc oui, il faut continuer la lutte, quoi, évidemment, au niveau professionnel, au niveau interprofessionnel, mais à un moment donné, il faut qu'on pointe aussi c'est quoi la stratégie qui peut nous faire gagner et c'est quoi la stratégie qui peut nous faire perdre, quoi. Il faut garder un peu de lucidité sur comment on y va, quoi. Et aujourd'hui, bon, effectivement, quoi, deux manifs dans la même semaine avec notamment des grosses confédérations qui appellent à la grève reconductible mais sans y travailler, bon, c'est compliqué, quoi. Il n'y aura pas de miracle, hein, si on ne s'y met pas concrètement par des appels, des AG, mais des appels fermes. Et ça se fait, hein. Là on est dans les Bouches-du-Rhône, c'est très compliqué au niveau intersyndical. J'ai vu passer il y a 2-3 jours un tract unitaire de l'Union départementale 94 du Val-de-Marne, siglé CGT, FO, FSU, Solidaire et UNEF, qui appelle les salariés publics privés à la grève reconductible. Ouais, c'est clair. Après, effectivement, ça se décrète pas, la grève reconductible, mais au moins, il y a une indication claire, unitaire, de vers quoi il faut aller.
Et par rapport à toi où tu travailles, ça se passe comment? Vous êtes, il y a des gens mobilisés
Alors, nous en fait, moi où je travaille, donc au niveau SNCF, on est en fait mobilisés sur une double revendication, à la fois au niveau ferroviaire, puisqu'au 1er juillet 2016 va se mettre en place une nouvelle réglementation du travail. Donc on a cette revendication à Sudrail de maintenir la réglementation du travail de la SNCF et de la généraliser à l'ensemble du secteur ferroviaire. En gros, pas procéder par une harmonisation par le bas, mais une harmonisation par le haut pour éviter le dumping social en cas d'ouverture à la concurrence. Et le deuxième point sur lequel on est mobilisé, c'est évidemment le retrait de la loi travail. Bon, le premier boulot en tant que délégué syndical d'explication, c'est évidemment d'articuler les deux niveaux de lutte. Bon, ben on se rend compte que Sudrail fait le boulot, FO à certains endroits fait un peu le boulot, mais bon, la CGT qui est quand même le syndicat majoritaire à la SNCF, au moins dans mon établissement et au niveau départemental, ne fait pas le boulot, quoi. Elle fait au contraire tout aujourd'hui pour compartimenter les luttes. Donc c'est compliqué. Et après, bon voilà, nous, comment ça se passe au niveau ferroviaire? Sudrail avait proposé depuis un mois d'aller vers une grève reconductible unitaire. La CGT nous avait dit OK pour le 18. Et une semaine avant, on s'aperçoit que la conception de la grève reconductible pour la CGT, bah, c'est 48 heures de grève, quoi, 2 fois 24 heures. Donc c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire les grèves les mercredis et jeudis toutes les semaines. Bah, c'est pas comme ça qu'on va gagner, c'est au contraire comme ça qu'on va démoraliser les cheminots de lutter, quoi.
Ouais, après ce matin, du coup, il y a eu quand même plusieurs actions interpro qui ont été menées. Et ce matin, on était sur le dépôt RTM de Saint-Pierre et il y avait eu un départ. C'était plutôt des syndiqués CGT qui étaient partis sur le rond-point de la Vera. Toi, tu parlais de Vitrolles tout à l'heure, peut-être que tu peux nous en dire deux mots.
Ouais, enfin j'en dis deux mots, quoi. Sur Vitrolles, sur la zone commerciale des Estoublancs, quoi. Il y a eu ce matin une petite centaine de militants et adhérents essentiellement solidaires, hein, de pas mal de secteurs, avec un peu de militants CGT qui étaient là aussi. L'idée était de bloquer les deux ronds-points d'entrée de la zone pendant 2 heures, donc ce qui a relativement bien marché. Voilà, on se raconte pas d'histoire, c'était une action quand même concrète, pas que symbolique, mais des actions comme ça, il faudrait qu'elles soient effectivement beaucoup plus nombreuses et généralisées. Donc demain, effectivement, il y a une proposition d'action aussi interprofessionnelle en gare Saint-Charles avec un rendez-vous à midi. Ça fait partie des actions qui vont permettre de montrer qu'on n'est pas simplement sur des manifestations qui ont un début et une fin, mais sur une volonté de blocage de l'économie. Mais le ressort de ces actions-là, c'est quand même des salariés qui sont en grève et qui convergent entre eux pour que ça puisse être dynamique. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que tant mieux que ces actions se fassent, ça peut permettre de poursuivre la lutte, mais il manque d'essence dans le moteur, quoi, en fait, quoi, pour y aller vraiment, quoi.
Et après les cheminots, on va écouter un autre interview, et cette fois sur une personne qui était sur le blocage du tri de poste.
Donc toi, tu étais sur le blocage ce matin des postiers ?
Il paraît, ouais.
tu travailles là-bas ?
Non, mais on travaille dans le pourtour. Donc on est venu un petit peu s'enquérir de l'économie locale et puis se dire que la seule façon d'aller un peu avancer sur nos revendications, bah, c'était de s'en prendre à l'économie et de bloquer l'économie.
Mais c'était où exactement le blocage ?
Le blocage, il était sur la zone industrielle des Estroublancs à Vitrolles.
Et vous avez bloqué quoi ?
Et on a bloqué le fret, les marchandises, ce qui tentait de passer, donc en termes de transport essentiellement. Voilà, pas des particuliers bien sûr.
Et il y avait beaucoup de monde sur le blocage ?
Il y avait une quarantaine de véhicules, ouais. Donc il y avait quand même du pop au long.
Et par rapport à la réaction des gens sur place, vous avez eu des échanges avec les gens qui étaient concernés par le blocage ?
Plutôt eu un excellent accueil, notamment de la part des travailleurs routiers, puisqu'ils comprennent tout à fait notre bataille qui est la leur en fait aujourd'hui, et qui effectivement, ça se joue pour les travailleurs sur le salaire. C'est-à-dire c'est à qui peut perdre un peu d'argent et investir dans la grève, parce qu'on ne perd jamais d'argent à être dans la grève, on ne fait qu'en investir. Et cet investissement, entre guillemets, massif de notre côté, appelle aussi un comportement amical et fraternel de leur part, puisque malheureusement, pas tout le monde peut faire grève aujourd'hui.
Et toi, tu travailles dans quoi ?
Je suis à la poste, moi.
Et ça se passe comment dans ton secteur ?
Formidablement bien, puisqu'on a un ancien banquier affairiste qui est président directeur général et qui ne pense qu'à une chose, c'est transformer notre belle entreprise à mission de service public en banque avec des capitaux de partout et avec surtout une ouverture totale à la finance. Voilà.
C'était juste à propos de l'action de ce matin que du coup vous n'étiez pas que des postiers.
Alors heureusement qu'on n'était pas que des postiers sur l'action de ce matin, même si on était quand même quelques postiers. Non, il y avait tous les secteurs d'activité représentés, il y avait des chômeurs, des chômeuses, il y avait des retraités de tous les côtés. Donc moi, c'était vraiment divers et varié. On appelle ça la convergence des luttes. Quand on est plusieurs de plusieurs secteurs, eh bien on converge et on essaie de faire des actions qui tiennent la route, notamment pour ce que je t'ai dit, c'est-à-dire le blocage de l'économie, le point sensible sur lequel manifestement il va falloir appuyer et plus qu'appuyer ces prochains jours.
C'est ça la suite ?
La suite, elle est là.
Merci.
Un témoignage plus que positif, mais ça fait du bien. On va écouter la dernière partie des interviews qu'on a réalisées en manifestation qui remet un peu les pendules à l'heure autour de l'édit casseur, toujours avec un syndicaliste de Sud.
Aujourd'hui, bon, il y en a pas mal de problèmes dans la mobilisation, mais c'est y compris, on a atteint un niveau de stigmatisation, ouvrez les guillemets, des casseurs, quoi, qui se manifestent à travers les rassemblements, les manifestations, les actions, etc. Bon voilà, moi en tant que syndicaliste, je considère que l'action la plus efficace, c'est la grève de masse et la grève reconductible. Mais après, moi, les casseurs numéro un aujourd'hui, c'est bien évidemment le gouvernement et c'est le patronat, quoi, qui porte cette responsabilité-là. Il y a aujourd'hui une situation de détresse, de désespérance qui fait qu'il y a effectivement du monde qui choisit des modalités d'action un peu différentes que ce que nous, au niveau syndical, on préconise. Mais de là à générer des guerres internes et des stigmatisations internes dans le mouvement contre la loi El Khomri, voilà, contre la régression sociale, bah c'est, nous-mêmes, on scie la branche sur laquelle on est, quoi. Moi, de ce point de vue, voilà, la manifestation des flics à Paris, à laquelle se joignent les Ciotti, les Le Pen et compagnie, je pense que faut arrêter. Aujourd'hui, les casseurs, c'est le gouvernement et le patronat. Et il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau, quoi. Et c'est compliqué, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui des modes de lutte qui cohabitent dans la mobilisation, qui sont différents. Mais bon, je pense que ça va passer par des convergences et une poursuite ensemble du mouvement. Si on arrive à se stigmatiser les uns les autres dans le mouvement, le gouvernement a gagné, quoi, en fait, quoi. Moi, j'étais en manif à Marseille le 28 avril, où effectivement, il y avait, sous l'impulsion des lycéens, étudiants, précaires, etc., l'envie de ne pas stopper la manifestation à Castellane, mais de poursuivre pour montrer qu'on était déterminés, etc. Solidaire a participé à cette poursuite de manifestation. Derrière vous, il y a la camionnette qui a été défoncée par des tirs de flashball. Des militants qui ont été arrêtés en préventive sur la manifestation du 1er mai. C'est... Concrètement, c'est pas possible. Et quand on voit que un responsable politique comme Guérini, comme Mennucci, est capable, le lendemain dans la Provence, de dire que Marseille était livrée au Black Bloc, qu'il a jamais autant entendu parler allemand ou anglais sur la canebière, il faut qu'il arrête l'exta, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est un truc de fou, quoi.
Enfin, ce qu'on peut voir dans les médias dits traditionnels. De retour en direct sur Radio Zinzine ainsi que sur BAM Radio, et en parlant des 10 casseurs, on apprend à l'instant que à Rennes, donc les 20 personnes qui avaient été inculpées pour dégradation des bornes dans le métro, donc apparemment ils ont mis de la mousse expansive dans les bornes du métro, donc c'est 20 personnes qui ont été arrêtées et qui dont les charges retenues ont été associations de malfaiteurs, ont toutes été relâchées. Puisque le parquet avait demandé leur mise en détention, mais finalement la justice a décidé pour l'instant de les mettre en contrôle judiciaire. Et en parlant de deuxième casseur, et ça j'avais presque oublié de vous le dire alors que c'est quand même une information cruciale, il y a Myriam El Khomri qui vient lundi à Marseille, et oui, puisqu'elle vient dans les bureaux du journal La Provence pour faire une confrontation à la fois avec le journal ainsi qu'avec des cheminots de Sudrail. Donc c'est les gens qu'on vient d'écouter un instant sur les ondes de Radio Zinzine. Ça promet. En tout cas, on verra ce qui est dit. Et il y a un appel à mobilisation, c'est à 13h à la Joliette. Voilà, j'avais oublié de le dire aussi dans l'agenda. Maintenant, c'est noté. Alors, pour dire aussi que ce mouvement de blocage, il est étendu à l'ensemble du territoire. Hein. Ça va autant à Clermont-Ferrand, Strasbourg, Toulouse, Cherbourg, Rennes, Pas-de-Calais. Et les formes de blocage sont aussi diverses, puisqu'il n'y a pas que la raffinerie, il y a aussi des barrages filtrants de voitures, ainsi que des blocages de différents dépôts, comme là on a entendu dans un des interviews, ainsi que des blocages de zones industrielles. Donc voilà, tout un tas de choses qu'on continuera à suivre et on verra si le rapport de force sera suffisant. Mais encore une fois, c'est pas gagné, hein, puisque Cazeneuve, comme il l'a annoncé tout à l'heure, sur les 8 lieux de stockage de pétrole qui étaient bloqués en France, 6 des sites ont été libérés soit par la négociation, donc ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, soit par l'intervention des forces de l'ordre. Donc négociation, je ne sais pas, j'ai entendu aussi hier à France Info que le syndicat FO avait débloqué certains de leurs piquets de grève suite à des pourparlers avec le gouvernement. Ça reste pour l'instant assez trouble. En tout cas, toujours autour de ces blocages, il y a un article aujourd'hui qui est sorti dans le Figaro qui est assez drôle quand même, puisque le Figaro s'inquiète de tous ces cette multiplication de mouvements sociaux potentiel et notamment pendant l'Euro de foot. Donc le Figaro commence son article en disant « En plus des menaces terroristes, les organisateurs de l'Euro 2016 de foot doivent se préparer à faire face à une pluie de mouvements sociaux. » Donc on voit bien la teneur du drame, puisque la menace terroriste est mise au même niveau que les mouvements sociaux. Puisqu'on apprend, bah là on l'a dit tout à l'heure, que Sudrail donc appelle à une grève reconductible jusqu'au 11 juillet, donc qui couvre l'ensemble de la période de l'Euro de foot. Et en sachant que la SNCF est le sponsor officiel de la compétition, alors forcément ça la fout mal, mais Alain Vidalis a appelé les cheminots à leur responsabilité. Il a dit, ouvrez les guillemets, l'euro c'est un enjeu pour la France, aucun Français, quelles que soient ses convictions, ne comprendrait que pour des problèmes de ce type, on remette en cause l'image de la France et ce rendez-vous important. Voilà, rien que ça. Par rapport aux routiers aussi, puisque les routiers aussi font des opérations de blocage sur différentes routes de France, Manuel Valls a dit qu'il n'y avait aucune raison, puisque on avait négocié avec eux et que leurs heures sup seraient toujours payer 25% de plus, donc il n'y avait aucune raison de faire grève. Il faut savoir aussi qu'il y a le SNPL, le premier syndicat des pilotes d'Air France, qui compte aussi faire une grève à partir du 1er juin pour protester contre des mesures réduisant leur rémunération. Et là, cette fois, c'est Alexandre de Gignac, le président sortant d'Air France KLM, qui dit, alors je vais retrouver sa citation. La grève serait vraiment un acte que je qualifierais presque de sabotage des immenses sacrifices et efforts qui ont été faits par tout le monde et qui produisent leurs effets. C'est absolument superbe, cette verve de la tragédie presque antique pour parler d'un mouvement social de gens qui essayent simplement de défendre leur emploi. Il y a aussi les taxis ainsi que les buralistes, alors je rentre pas dans les détails des réformes, mais qui prévoient potentiellement de faire grève. Donc cet euro de foot risque d'être mouvementé. On continuera à suivre ce mouvement social en sachant que c'est pas forcément gagné, parce qu'on se rappelle pendant le mouvement des retraites qu'il y avait les raffineries aussi qui avaient été bloquées, qui avaient eu un début de pénurie comme il y a actuellement notamment dans l'ouest de la France, mais ça n'a pas empêché au gouvernement de faire passer ce qu'il avait envie de passer. Et pour cette deuxième partie d'information sur Radio Zinzine ainsi que sur BAM Radio, on va écouter une interview que nous avons réalisée avec Tiffen de Radio Galère, interview de Guigui qui nous parle de la situation à Mayotte et dans les Comores en général.
Ce qu'on peut voir dans les médias dits traditionnels, il n'y a pas beaucoup d'articles sur Mayotte ni sur les Comores en général, et que les derniers articles qu'il y a eu ces dernières semaines, on parle des violences racistes qui existent sur l'île de Mayotte, et on parle d'immigrés, d'immigrés clandestins, mais c'est jamais replacé dans le contexte de ce qu'est Mayotte et ce qu'est Mayotte dans les Comores.
Alors, d'abord, moi je suis Guigui. Alors mon nom officiel c'est Saïd Ahmed, Saïd Mohamed Jaffar. Je suis originaire des Comores et militant de survie. De longue date depuis le temps de feu Verschave, François-Xavier Verschave. Et militant donc à la fois pour la cause comorienne et pour les peuples, pour les peuples en général. Et il se trouve que sur les Comores j'en connais plus un bout que sur la France-Afrique. Mais la France-Afrique je connais pas mal. Aussi. Donc on va pouvoir discuter des événements, puisque justement ce qu'on entend dans les médias, il y a essentiellement le fait qu'à Mayotte aujourd'hui, il y a de la violence, de la xénophobie, etc. Et qu'on chasse les Comoriens en situation régulière ou irrégulière, et on place ça sous l'angle de la xénophobie, etc. Et du coup, on occulte le mouvement de grève pour l'égalité totale entre Mayotte et la France. Et on occulte aussi tous les mouvements qu'il y a eu avant à Mayotte pour dire c'est bien d'être un département, mais on aimerait ne pas avoir que les devoirs, mais qu'on ait aussi les droits. Il faut savoir que la vie est plus chère, deux fois plus chère à Mayotte qu'à La Réunion, qui, elle, est deux fois plus chère qu'en France. Donc c'est dire la misère qui existe à Mayotte. Si je fais un petit tour en arrière, les Comores étaient colonisées dans leur ensemble par la France. En décembre 1974, il y a eu un référendum global où à 96%, les Comores ont voté pour l'indépendance. Mais la France accusant le coup, n'a pas aimé du coup ce qui s'était passé. Elle a décidé de faire un décompte île par île et trouvé qu'à Mayotte, il y avait 64% de gens qui avaient voté pour rester français. On se souvient ici que pour Maastricht, à 50,1%, on a voté, c'était bon. Mais pour les colonies, c'est jamais bon quand ça ne va pas dans le sens de la France-Afrique. Et quand les élections donc ont donné ces résultats-là, la France a décidé de refaire une autre consultation île par île. Et suite à cela, les Comores ont déclaré unilatéralement l'indépendance le 6 juillet 1975. Mmh. La France a décidé de reconnaître l'indépendance des trois îles, mais pas de Mayotte. J'espère que ces éléments-là clarifient un peu le tableau. Parce que je voudrais venir de façon plus précise sur les événements de Mayotte.
Moi, j'ai une dernière question de recontextualisation. En 2011, c'est la départementalisation de Mayotte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce qu'était Mayotte avant 2011, du coup ?
Alors, d'abord, les Comores, ensemble, étaient un territoire d'outre-mer, les quatre îles, jusqu'à l'indépendance des Comores en 1975. Et entre 1975 et 2011... Mayotte a eu des statuts bâtards de collectivité territoriale, de collectivité sous la République française, etc. Des statuts fabriqués ad hoc.
C'est des régimes d'exception, du coup.
C'est des régimes d'exception. Et quand Mayotte devient département, c'est aussi un régime d'exception, puisqu'il n'a de département que le nom. D'où les éléments, les événements actuels où il y a un ras-le-bol de la part des habitants de Mayotte et sur l'insécurité et sur les conditions de vie, de salaire et sur l'inégalité entre autochtones et Wazungu, les Wazungu étant les blancs venant d'Europe, et sur la manière dont ils sont considérés chez eux. Bon, encore une fois, quand c'est des Blancs qui commettent des actes à Mayotte, ils sont jamais jugés sur place, ils sont pas emprisonnés sur place. Ils sont jugés ou à La Réunion, ou exfiltrés en France. Quand c'est des Autochtones, eux, ils sont jugés sur place. Et d'ailleurs, même les députés maorais trouvaient cela inacceptable, qu'il y ait deux justices, l'une pour les Blancs et l'autre pour les Autochtones. Donc, voilà, pour ce qui est de la différence entre les gens là-bas et les Wazungu, on va le dire, ils vivent dans un cadre fermé, sécurisé, parce qu'ils ont peur de se faire agresser, des cambriolages, etc. Mais il y a des cambriolages, il y a des agressions, il y a même des assassinats à Mayotte, et il y a un climat d'insécurité. Mais bon Dieu, on n'est pas sous la République française, et la France n'a pas dit que c'était un département français. Et pourquoi il y a deux traitements différents entre ce département-là et les autres départements français? Alors, sur ces derniers mois, il y a eu un mouvement à Mayotte. Ça a commencé un peu plus tôt, parce qu'il y a eu même les caddies qui étaient venus en France, à Paris, négocier sur les, à la fois sur la place de la religion à Mayotte et sur les conditions de vie, et sur les difficultés qu'il y avait à Mayotte. Ceux-là, les caddies avant, c'est eux qui réglaient la justice à Mayotte, la justice comorienne. Il y avait deux justices parallèles. Et la France a décidé qu'il n'y a plus de justice musulmane qu'elle allait gérer, puisque c'est la France. Et que ces caddies-là allaient avoir un titre
honorifique.
Mais il s'avère que ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes de la population civile à Mayotte, donc ils ont recours aux caddies quand même.
Et donc eux, ils sont venus en délégation en France.
En France.
Courant du mois de mars, du coup.
Voilà, de 2016, en 2016 là. Et après, il y a eu mais ça couvre depuis toujours l'histoire de l'inégalité qui existe à Mayotte. Et là, il y a eu les syndicats de Mayotte, aussi bien les enseignants qui réclamaient d'avoir les mêmes droits que les enseignants ici. Il y a les chauffeurs de taxi, la société civile, tous les syndicats qui sont mis d'accord pour demander tout simplement qu'il y ait l'égalité des droits entre Mayotte et ici.
Donc ce mouvement que tu as commencé à nous raconter, qui débute fin mars, des séries de blocages à partir du 30 mars jusqu'à la mi-avril, il y avait une opération Île Morte.
C'est le blocage de tous les commerces, de tous les services, en signe de grève. C'est comme ça que ça se passe aux Comores, aussi bien dans la partie indépendante qu'à Mayotte. Quand on parle d'opération Île Morte, ça veut dire... tous les services sont fermés.
Et
il y a une délégation des syndicats qui est venue en France. Ils sont repartis avec des promesses qu'on va, on va, on va, on va faire. Et quand ils sont arrivés à Mayotte, ils ont décidé de suspendre le mouvement, voir ce qui allait arriver.
Ils ont donc levé tous les blocages, parce qu'il y avait notamment des blocages de route.
Ouais.
C'était là, impossible de circuler sur l'île.
Voilà. Et c'est quand ils ont levé les blocages qu'on a recherché de nouveaux boucs émissaires. Et c'est là qu'on a trouvé que c'est la cause de tous ces maux qu'il y a à Mayotte, c'est l'étranger. Entendez le Comorien. C'est l'immigré, c'est le sans-papier, et même des gens qui ont des papiers sont pourchassés aujourd'hui à partir des villages. Je veux dire, ça commence pas là, c'est permanent, puisqu'on se souvient de Amuro il y a quelques années en arrière, où on a brûlé tout un village, un quartier où il y avait des originaires de la Grande Comore. On se souvient des attaques souvent qui arrivent, des clandestins, des dits clandestins. Moi, je dis pas clandestins, moi, je dis des Comoriens vivant à Mayotte. Et la BAC, moi, je l'ai vu faire à Mayotte, la manière dont ils...
La brigade anticriminalité.
C'est ça. La manière dont ils attrapent les gens dits sans papier, sans ménagement, et en fait, ils les prennent et ils les mettent dans la zone de rétention. Et en moins de 48 heures, ils sont expulsés vers les Comores, sans autre forme de procès. Ça, même la CIMAD et les autres organisations le disent. Donc, quand il y a... C'est pour ça que je dis, c'est pas... Il n'y a pas une date après que ça se passe, mais ça s'est exacerbé parce qu'on a organisé un mouvement de collectifs dans les villages, au nord comme au sud, pour dire maintenant, il y en a assez, on va faire la chasse aux sorcières, on va faire la chasse à l'immigré. Et ça fait un peu style Radio Mille Collines, dont on parle un peu là, où la France présente les regards de fer, les bras croisés.
Il y a des tracts qui sont sortis aux alentours du 15-17 avril et qui disent clairement, qui appellent clairement à des milices et à...
Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça continue. Ils ont prévu en début mai, dans le Nord, de faire encore les mêmes... Ils préviennent. Hein. La France le sait, les autorités le savent, qu'on va déloger les étrangers. Mais on fait rien. Alors, j'ai entendu là, entre hier et aujourd'hui, que le gouvernement français s'en est ému, aussi bien Cazenave que la ministre des colonies, que tous disent que c'est pas bien ce qui se passe là-bas. On va demander des comptes pour ceux qui répriment les gens, mais on va envoyer plus de gendarmes pour expulser davantage les irréguliers, les sans-papiers. Donc ils font feu de tout bois pour la chasse à l'homme. Et c'est là où on voit la collusion entre les autorités, ces mouvements-là, et donc tout ce qui est de la déstabilisation de la situation pour chasser du Comorien. Et c'est cela que je dis, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, ça prend un caractère chaud parce que ça se passe en ce moment, mais ça se passe tous les jours. Et tous les jours, il y a des quoi ça qui sont... Alors maintenant, la version officielle, ils disent qu'ils vont heurter les bateaux de la PAF. Alors que les bateaux de la PAF, feu éteint, vont couler ces bateaux-là.
PAF, police aux frontières, et du coup, les quoi ça, c'est...
C'est les bateaux de fortune, là. Alors il paraît que ces bateaux vont foncer dans les super bateaux de la police aux frontières. Pourquoi il y a tant de morts ? Parce que parmi les gens qui viennent, il y en a beaucoup qui ne savent pas nager, mais qui passent quand même. Et il y a eu des gens qui savaient nager, qui étaient rescapés du coup, et qui ont témoigné en disant « feu éteint, ils sont venus nous rentrer dedans ». Après, ils font les pyromanes pompiers qui viennent secourir les gens, qui sont, etc. Il faut arrêter cette hypocrisie-là. Il faut arrêter toute l'hypocrisie qui est en place, parce que ce qui intéresse en fait la France, ce ne sont pas les Mahorais, ce ne sont pas que les gens vivent bien, c'est la place stratégique, parce qu'à Mayotte, il y a une base militaire, une base d'observation, et qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de pétrole et de gaz sur les Comores. Donc la France n'est pas prête à lâcher tout ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on devient ? Nous, les habitants des Comores, les originaires des Comores, les Comoriens. D'ailleurs, personne n'en parle. Et c'est pour ça que c'est important aussi de le diffuser, de le dire partout, de rétablir la vérité, que ce n'est pas une question d'immigrés, de clandestins. C'est une question que la France va utiliser. Tous les moyens, même illégaux, elle s'en fout. Tous les moyens pour s'y maintenir. Et là, je fais la... La mesure de, je reprends ce que je dis par précaution. Quand je parle de la France, que je parle des Français, je ne parle pas du peuple de France, je ne parle pas du peuple français, je parle des autorités françaises qui, elles font aux Comores ce qu'elles font ailleurs en Afrique.
Donc il y a des intérêts militaires et il y a des intérêts économiques. C'est les deux raisons principales.
Mais c'est les mêmes raisons qui font qu'en Côte d'Ivoire, on a chassé Gbagbo. Je ne suis pas pour Gbagbo pour autant, hein. Mais là je parle de, parce que je dis par exemple pour les Comores, Mamadou était l'enfant chéri pour ces élections-ci. Il a perdu. C'est Azali qui a gagné, mais nous on n'a pas gagné parce que c'est toujours un suppôt jusqu'à preuve du contraire de la France-Afrique et de la politique française en Afrique, aux Comores. Voilà. En termes de perspective, je pense qu'on traverse des moments difficiles par période, mais moi j'ai de l'espoir pour les Comores. La France fera tout ce qu'elle veut. Elle n'arrivera pas à enlever la terre comorienne qu'est Mayotte et la transplanter en France. Donc on va avoir des souffrances, des moments difficiles. Et là, dans ce qui se passe là actuellement, il va y avoir des représailles. Mais c'est toujours ça, ça se passe toujours comme ça. Mais il y a de plus en plus de gens aussi qui en ont marre. Et ces mouvements de demande de l'égalité des droits, c'est pas seulement un mouvement populaire, c'est une revendication de tous les Mahorais. Voilà. Et dans ce sens-là, c'est un mouvement large qui est soutenu, même s'il est difficile parce que la France ne voit que les barricades, que les gens qui empêchent les riches de continuer à s'enrichir, qui empêchent la France de continuer à faire ce qu'elle veut. Mais il arrive un moment où les Mahorais n'en voudront plus.
Peut-être la seule dernière chose pour les auditeurs et les auditrices, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver des ressources en français sur les Comores ? Parce que toi, tu tiens une émission, par exemple, sur les ondes de Radio Galère toutes les semaines,
oui.
Mais c'est une émission à destination
de la communauté comorienne, ouais, essentiellement.
Alors, où est-ce qu'on trouve des infos ?
Il y a des livres qui sont sortis.
Ouais.
Je pense qu'à la librairie Transit, par exemple, on peut en trouver.
Oui.
L'Harmattan en a sorti beaucoup. Il y a notre ami regretté, Salima Thuibou, écrivain, qui est décédé il y a un an maintenant, qui a écrit beaucoup sur entre là-bas et ici, les Comores et Marseille, et qui, en fait, donne beaucoup d'éléments sur et la culture comorienne et la culture d'ici. Mais, et puis après, il y a toute une bibliographie. Il y a des sites internet aussi. Le 00269, qui est tenu par Ben Amir, est un site qui parle de la question des Comores régulièrement. Après, il y a des sites internet, mais je vais pas aller dans le détail parce que c'est des sites un peu partisans.
Okay.
Et j'ai pas envie, moi, de jouer le jeu. Moi, j'y vais, je les visite, mais avec mon œil critique.
Ouais, tu as du recul, quoi.
J'ai du recul, ouais. Je sais ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut pas prendre. Mais je vais pas envoyer comme ça, comme référence pour tout le monde.
Bah, merci beaucoup, Guigui, d'être venu.
Et c'est la fin de ces informations en direct sur Radio Zinzine ainsi que sur BAM Radio. On fait vite parce qu'on est en retard. Pour les gens qui nous écoutent en direct, c'est tout de suite l'heure du blues et ensuite Kilowatt FM. Vous retrouvez ces informations rediffusées à minuit ainsi que demain matin sur les ondes de Zinzine. Et pour finir, on écoute rapidement les nouvelles du Kurdistan. À la semaine prochaine en direct de Marseille.
Au Bakur, Kurdistan du Nord en Turquie, les résistants et résistantes kurdes continuent à s'opposer à l'État turc, lequel maintient la guerre coloniale en cours. Les villes de Nusaybin et Şırnak sont toujours sous couvre-feu militaire et voient s'opposer les YPS, Unité de protection civile, et les YPS-JIN, Unité de protection civile féminine, à la police et aux forces spéciales turques. À Nusaybin, les combattantes des YPS-JIN ont réalisé une action de sabotage contre un groupe de 15 soldats turcs. 10 d'entre eux ont trouvé la mort. Face à la résistance en cours, l'État turc a donné l'ordre de bombarder la ville. 4 frappes aériennes ont ainsi été réalisées dans le quartier de Halika, mercredi 11 mai. À Şırnak, qui entre dans son 62e jour de couvre-feu, le général Hulusi Akar a donné l'ordre de poursuivre la mise à feu des habitations. Les hôpitaux, les institutions, sites historiques et lieux de commémoration sont progressivement détruits par les attaques des forces spéciales turques. Mardi 10 mai, la mosquée Geylani a été détruite par les tirs de mortier. En réponse à ces attaques, les HPG, les mouvements de jeunesse communistes, ont fait exploser un véhicule militaire de l'armée turque sur la route de Midyat à Idil, faisant 5 morts. À Ahmet, Diyarbakir en turc, une attaque a été menée contre un bus militaire. 9 policiers participant aux attaques en cours au Bakour ont également trouvé la mort. Enfin, vendredi 13 mai, à 4h30 du matin, le PKK a abattu un hélicoptère de l'armée turque. 6 soldats ont trouvé la mort, parmi lesquels 2 pilotes. Shermin Soydan, journaliste à l'agence DIHA, a été arrêté puis emprisonné à Wan pour avoir transmis les informations sur l'opération Yuksekova, c'est-à-dire le siège et les attaques contre les habitants de la ville. Aujourd'hui, 13 journalistes de l'agence de presse DIHA ont été emprisonnés. Ailleurs, un jeune kurde a reçu 9 coups de couteau sur un chantier, près d'Istanbul, pour avoir parlé kurde. Pour l'instant, son bras et sa jambe droite sont paralysés. Au Rojava, c'est-à-dire le Kurdistan de l'Ouest, en Syrie, une voiture piégée de Daesh a explosé à Qamishlo, en faisant plusieurs victimes.